Bonjour, c'est Axel Le Tarlet. Vous allez écouter C'est dans l'air, l'intégrale. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite.
Bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron en face à face avec Vladimir Poutine. Le président français a voulu justifier hier soir sa position de très grande fermeté dans la guerre en Ukraine avec la possibilité d'envoyer des troupes au sol. Deux Français sur trois y voient un risque d'escalade. Tandis qu'à Berlin, le chancelier allemand affiche publiquement son désaccord avec le président français. Alors justement, après avoir tenté de convaincre les Français hier soir aux 20h de France 2 et de TF1, Emmanuel Macron est aujourd'hui à Berlin avec le président polonais pour tenter d'aplanir les différends. Et ce, au moment où, sur le terrain militaire, la Russie prend l'ascendant en Ukraine avec un Vladimir Poutine qui s'apprête à rempiler ce week-end pour un cinquième mandat au terme d'un vote en forme de plébiscite. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air intitulé ce soir « Ukraine, Macron isolé face à Poutine ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir le général Dominique Trinquant. Vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU, auteur de « Ce qui nous attend », c'est aux éditions Robert Laffont.
Bonsoir.
Bonsoir. Armelle Charrier, éditorialiste en politique internationale à France 24. Georgina Wright, vous êtes directrice adjointe des études internationales à l'Institut Montaigne. Et Pascal Boniface, vous êtes directeur de l'IRIS, auteur de « Géostratégiques 2, les grands enjeux du monde contemporain ». C'est chez Duno Graphique. Merci de participer à cette émission en direct. Général Dominique Trinquant, d'abord revenons sur l'intervention du chef de l'État hier aux 20h. Pour nous convaincre, Emmanuel Macron a cité Churchill en parlant d'une ère de la paix qu'il a résumée de la façon suivante. Vouloir la paix, ce n'est pas choisir la défaite. Est-ce que c'est un bon argument avec votre analyse de...
Alors, je pense que c'est un bon argument de présenter d'abord l'image qu'est Churchill, parce que je rappelle qu'on compare beaucoup les époques pré-Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui. Churchill était le seul qui, à l'époque, homme politique, j'entends, qui tenait fermement, qui a tenu fermement en Angleterre, qui a tenu fermement avec les Français, à tel point qu'il n'a pas cru que la défaite française était possible. Hein, donc, c'est un bon exemple de le présenter comme ça. Mais il s'agit, bien sûr, de convaincre, hier soir, de convaincre la population française. Après les votes du Parlement et du Sénat, donc il avait l'appui puisque ça a été voté, tout le monde est d'accord, mis à part le Rassemblement national qui ne prenait pas position et LFI qui, au contraire, prenait position contre, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait soutenir l'Ukraine. Maintenant, ce qu'il devait expliquer, c'est jusqu'où, comment. Et là, il a laissé toujours planer le doute sur jusqu'où. C'est-à-dire, la chose qui est certaine, c'est que toutes les options doivent être étudiées. Et là, je parle en tant que militaire, c'est une évidence. Moi, ce qui me choque, c'est que ça n'ait pas été dit il y a 2 ans. Parce que, en termes militaires, on étudie toujours toutes les options.
C'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il va le faire, mais il refuse de se l'interdire.
Exactement.
C'est ce qu'il a voulu dire hier.
Et ce qu'il y a de très clair, c'est que l'état-major des armées françaises et d'autres ont discuté de toutes ces options depuis longtemps. Et ensuite, il appartient au président de la République de décider si on va le faire ou pas. Mais il y a plein d'options qui vont être étudiées et qui ont été étudiées lors de la réunion à l'Élysée, avec les pays qui étaient autour de la table. Il n'y avait pas consensus sur un certain nombre de choses, et en particulier sur le fait qu'on puisse envoyer des troupes, pour une raison ou pour une autre, en Ukraine. Voilà. Mais je crois qu'il avait besoin d'expliquer d'abord que le danger était là, que Poutine ne pouvait pas gagner. On ne pouvait pas laisser Poutine gagner, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il ne fallait rien s'interdire, parce que, soyons certains, que depuis 2 ans, c'est Poutine qui place les limites en permanence, qui nous dit on peut faire ci, on peut faire ça, vous avez des chars, des avions, etc. En fait, c'est notre peur qui nous imposait de ne pas faire ça dès le début. Et maintenant, il s'agit d'inverser là. C'est Poutine qui doit avoir un doute dans sa tête en disant, si je fais ça, que va-t-il se passer ? Et non pas, ils se sont interdits d'y penser.
Georgina Wright, je ne peux résister à la question suivante, sachant que vous êtes britannique. Hier soir, le président français a convoqué Churchill pour justifier sa position. Est-ce qu'en Angleterre aussi, on fait ce même parallèle en disant, on est dans un moment churchillien, ne soyons pas comme en 1938 où Daladier en France et Chamberlain en Angleterre avait dit à Hitler, bon, c'est la dernière fois, hein, mais la prochaine fois, vous arrêtez maintenant. Et Churchill avait dit, vous avez choisi le déshonneur, vous aurez le déshonneur et ensuite la guerre. Est-ce qu'on fait le même parallèle avec ce moment churchillien ?
Vous savez, c'est le grand héros des Anglais, donc on utilise,
mais
on fait un peu attention, effectivement. Le Premier ministre qui faisait beaucoup référence à Churchill, c'était Boris Johnson. Ouais. Depuis, on entend beaucoup moins parler de ça, mais les Britanniques se félicitent en fait, du soutien pour l'Ukraine, qui est depuis le tout début, enfin, même avant l'invasion, c'était avec les États-Unis, les seuls à dire on pense qu'une invasion est imminente, elle va arriver, il faut qu'on soit préparé. Donc ils sont très fiers du soutien qu'ils apportent au quotidien aux Ukrainiens. Et par ailleurs, ils continuent à être très engagés au sein de l'OTAN et par des accords bilatéraux avec l'Ukraine et d'autres États membres de l'Union européenne. Et je suis tout à fait d'accord, je pense que l'adresse du président hier, c'était très certainement vers les Français. Mais il y avait aussi, je pense, une adresse aux Européens. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'Européens qui sont méfiants de la France. Alors, et surtout à l'égard du président, au tout début de la guerre, quand il disait qu'il ne faut pas humilier Poutine, il allait à Moscou pour essayer ces tentatives qui maintenant s'avèrent futiles, en fait, de le convaincre de ne pas mener une guerre. Et là, il y a toujours, surtout en Allemagne, mais ce n'est pas qu'en Allemagne, on entend des critiques en disant « bon, ben, c'est très bien de dire qu'il faut faire plus, mais en fait, vous, votre aide, elle est à la hauteur de 3 milliards, les Allemands, on est à 7 milliards, vous dites que vous allez faire ci et ça, mais en fait, vous tardez, vous tergiversez. » Donc, il y a aussi besoin, je pense, de convaincre les Européens que la France est prête à aller jusqu'au bout, à soutenir l'Ukraine. Et je pense que là, on sent qu'il y a un changement au niveau de la Pologne, des Pays-Baltes, il y a Sikorski, qui est le ministre des Affaires étrangères, polonais qui encore hier a dit on salue l'engagement de la France, mais il y a d'autres pays qui restent encore un petit peu dubitatifs.
Pascal Boniface, hier Emmanuel Macron a cité Churchill, alors sans se prendre pour Churchill, est-ce que quelque part aussi Emmanuel Macron ne se voit pas en général en chef de l'Europe qu'il faut défendre face à l'agresseur russe en disant c'est le retour du tragique et il faut qu'un chef d'État se lève.
C'est son pari et c'est ce qui explique son changement d'attitude qui est pas récent, qui date du mois de mai, du mois de juin, lorsqu'il a fait un discours à Bratislava. Il était considéré comme le plus réticent des alliés à aider l'Ukraine.
Il était une colombe, il est devenu faucon, voilà. Nous dit hier Le Monde.
Oui, c'est vrai, parce qu'il voit une opportunité, il voit une fenêtre d'opportunité. Les Allemands hésitent, les Britanniques sont quand même en dehors de l'Union européenne. Il y a des doutes américains, le Congrès est bloqué, Trump peut éventuellement arriver. Il se dit, bah là... Oui, il aime bien être le chef. Lorsqu'il a été élu en 2017, on le voyait comme leader de l'Europe. Puis après, il s'est passé plein d'événements, il ne l'est plus. Et là, il voit une occasion de redevenir le leader de l'Europe. Alors là, son intervention hier, c'était pour clarifier aussi, de convaincre ses propos, parce que c'est une chose d'envoyer des armes, c'est autre chose d'envoyer des troupes. Et ses propositions, le 16 février, de dire « on n'exclut pas d'envoyer des troupes », là, ont quand même créé un trouble parmi les Français. 74% des Français sont contre, parce que pendant toute la guerre froide, on a toujours évité d'avoir face à face des armées, une armée occidentale et les armées soviétiques. Pas de confrontation directe. Et là, c'est tout le débat, bien sûr, qui est là. Il y a un soutien à l'Ukraine qui est en matériel, ce que personne ne conteste. Et l'inquiétude, c'est l'engrenage d'envoyer des troupes. Parce que, bah, effectivement, les guerres peuvent démarrer comme cela. Donc il faut distinguer les deux, mais il fait un pari en disant « tant pis, je suis isolé, la plupart des autres pays ne veulent pas envoyer de troupes. » Alors les Polonais seraient d'accord parce qu'eux, ils sont vraiment à la frontière. « Je suis aussi isolé dans mon propre pays parce que les Français sont réticents. Bah, je le dis le premier et puis les autres suivront et j'essaie de marquer l'histoire. » C'est un pari risqué.
Un pari risqué, c'est vrai qu'Armel Charrier reviendra dans quelques instants sur le chancelier allemand, qui n'est pas sur la même position, mais même les Français. 80% se disent préoccupés, et Pascal Boniface le disait, il y a eu un autre sondage là, qui dit que 65% des Français estiment que c'est une mauvaise chose l'idée d'envoyer des troupes au sol, car, je cite, « cela présente un risque d'escalade dans la guerre ».
Alors, c'est vrai que cette phrase, elle a remis l'Ukraine dans les conversations de tous les jours, j'allais dire. Parce que fait des gens qui n'ont rien à voir avec nos métiers ou avec nos professions, nous, elles, sur ces questions-là, en disant « mais est-ce qu'on va envoyer nos enfants mourir pour l'Ukraine ? Qu'est-ce que ça veut dire ?» Donc, on sent que les Français ne sont absolument pas d'accord parce qu'ils se sentent directement concernés. Ensuite, l'autre remarche franchie, vous l'avez souligné, c'est qu'à partir du moment donné où on envoie des hommes, et surtout où on le déclare, on va se retrouver sur une confrontation confrontation frontale. Et si vous avez une confrontation frontale d'un soldat français face à un soldat russe, si vous avez un mort d'un côté ou de l'autre, vous avez potentiellement une guerre que vous pouvez déclencher. Et vous avez deux pays qui sont dotés de l'arme nucléaire. Donc jusqu'à présent, l'arme nucléaire, elle a servi à ça. C'est un bouclier. Ça nous évite d'avoir un affrontement direct. Mais le jour où on va à ce type d'affrontement, on n'évitera peut-être pas de rentrer dans une réalité d'armes nucléaires. Donc ça, c'est le risque majeur qu'il y a derrière. Et puis derrière, je pense que c'est aussi une question qui est de se dire que qu'est-ce qu'on va faire pour l'Ukraine, finalement. Et que c'est vrai que la phrase du président Macron, elle est de dire, et on l'entend très bien chez les Britanniques, par exemple, elle est aussi de dire il est hors de question que la Russie gagne aujourd'hui. Mais sur le terrain, la Russie, depuis le début de la guerre en Ukraine, elle est présente. Sur le terrain, la Russie, elle n'est pas partie et elle continue à envoyer des hommes et elle continue à envoyer de l'armement. Donc elle se met en position de continuer la guerre. Et en fait, la position générale, ça va dépendre de ce que vont faire les alliés les uns les autres. Les Américains ont énormément soutenu les Ukrainiens pour les aller dans cette guerre, avec les livraisons d'armes dont on a beaucoup parlé. Aujourd'hui, vous avez 60 milliards qui sont bloqués au Congrès américain. Donc vous avez 300 millions qui vont être donnés par les Américains là pour donner un peu d'argent pour les munitions, parce qu'ils ont quand même besoin de munitions, les Ukrainiens. Si vous avez demain un Trump qui est élu, vous n'aurez plus les Américains qui seront derrière. Et ce qu'ils risquent de dire aux Européens, c'est finalement, cette guerre, elle est sur votre territoire européen, gérez-la. Donc comment est-ce qu'on la gère? Et est-ce que dans ces cas-là, on la gère dans une étape qui nous amène vers la guerre, qui est grosso modo ce que demande aujourd'hui Emmanuel Macron? Ou alors, est-ce qu'on va aller, c'est pour ça qu'il y a d'autres pays européens qui réfléchissent totalement différemment, en disant il nous faudra à un moment donné aller vers une autre solution que la guerre, et donc dans ce cas-là, vers quelle solution pouvons-nous réfléchir?
Alors, Emmanuel Macron s'est donc adressé aux Français hier en évoquant, je cite, une guerre existentielle pour notre pays. Le président veut être prêt à répondre à une escalade russe en réaffirmant l'hypothèse d'un envoi de troupes au sol en Ukraine. Un sujet de discorde, notamment avec le chancelier Olaf Scholz, qui l'a rencontré cet après-midi à Berlin, aux côtés du président polonais, sujet de Nicolas Bidart et Aurélie Saner.
Opération réconciliation entre Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz, avec comme médiateur le Premier ministre polonais Donald Tusk. Les trois premières puissances européennes réunies pour annoncer le fruit de leur concertation.
Nous allons créer une nouvelle coalition sur les armes à longue portée dans le cadre du format Rammstein.
Le fait que nous soyons en ce jour tous les trois unis, déterminés, avec la même lucidité sur la situation en Ukraine et résolus à ne jamais laisser gagner la Russie et à soutenir le peuple ukrainien jusqu'au bout est une force pour nous, nos peuples, notre sécurité et notre Europe.
Une unité affichée après des semaines de divergences, d'échanges acerbes entre Paris et Berlin. Fin février, le président français suggère l'envoi de troupes en Ukraine et tacle le partenaire allemand sans le nommer directement.
Je vous rappelle qu'il y a 2 ans, beaucoup autour de cette table disaient « Nous allons proposer des sacs de couchage et des casques ». Et aujourd'hui disent « Il faut faire plus vite et plus fort pour avoir des missiles et des tanks ».
10 jours plus tard, le président français surenchérit, appelant les alliés à ne pas être lâches. Outre-Rhin, la leçon est peu appréciée.
Il ne s'agit pas de savoir qui veut en faire plus. Il faut se concentrer sur ce dont l'Ukraine a le plus besoin. Nous n'avons pas besoin, du moins de mon point de vue, de discussion sur les troupes sur le terrain ou sur le fait d'avoir plus ou moins de courage. C'est quelque chose qui n'aide pas vraiment à résoudre les problèmes que nous avons.
Interviewé hier soir, le président français persiste. Rien ne doit être exclu pour aider l'Ukraine, soulignant la menace existentielle, dit-il, que fait planer le conflit.
Ensuite, je vous le dis, nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait.
De quelle manière ?
Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Vouloir la paix, ça n'est pas choisir la défaite. Vouloir la paix aujourd'hui, ça n'est pas laisser tomber l'Ukraine.
C'est faire la guerre.
Vouloir la paix, non, c'est d'être crédible, d'être fort et prêt pour nous adapter au choix que la Russie ferait. Jamais nous ne mènerons d'offensive. Jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Simplement, aujourd'hui, pour avoir la paix en Ukraine, il ne faut pas être faible.
Un message envoyé aux alliés et un autre aux partis d'opposition n'ayant pas voté en faveur de l'accord de sécurité entre la France et l'Ukraine cette semaine.
Les gens qui disent ça aujourd'hui, les mêmes qui ne veulent pas d'ailleurs soutenir l'Ukraine, ils ne font pas le choix de la paix.
Parler de qui ?
Mais ils font le choix de la défaite.
Il y a quelques jours.
Ils font le choix de l'abandon de souveraineté. Parce qu'ils font le choix dès maintenant de dire « nous, nous avons des limites ». Et donc, à celui qui jusqu'à présent n'en a pas eu, a pris toutes les responsabilités d'agression, nous vous laisserons progresser, nous avons peur.
Les cadres des partis concernés, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, fustigent aussitôt le chef de l'État.
Jusqu'à présent, nous savions qu'Emmanuel Macron nous menait au chaos. Depuis hier soir, nous savons qu'il veut aussi nous mener à la guerre.
Le président fait peur. Si on alimente la guerre, on finit par la faire soi-même. Ceux qui veulent la paix préparent la paix. Lui, non.
Le sursaut stratégique voulu par Emmanuel Macron sera-t-il entendu ? Pour y parvenir, le chef de l'État retournera à Kiev dans les prochaines semaines. La dernière remonte à juin 2022.
Question téléspectateur, général Dominique Trinquant, c'est Martine dans le Pas-de-Calais. Les hésitations et les réticences du chancelier Scholz sont-elles le reflet de l'opinion allemande ? Je vous livre ce sondage d'ailleurs. 61% des Allemands sont contre la livraison de missiles à longue portée Taurus, qui peuvent frapper à 500 km à l'Ukraine.
Oui, alors, si vous voulez, il ne faut pas se plaindre. Depuis 1945, nous souhaitions que l'Allemagne ne devienne plus une nation guerrière. Donc, on a réussi. On a des pacifistes. Donc, j'ai servi 5 ans en Allemagne. Je peux vous dire que quand j'entendais un officier allemand me dire « Ah oui, mais dans l'armée française, vous avez de la chance, vous avez la discipline », vous vous dites que quand même, il y a beaucoup de choses qui ont changé en Allemagne. Oui, oui, il le disait. Donc, oui, je pense que la population allemande est plutôt sur le versant pacifiste, premier point. Deuxième point, la défense allemande repense exclusivement sur l'allié américain par le biais de l'OTAN. Il faut savoir qu'en 1954, ça n'a été recréé que par ça. Donc, naturellement, ils ont une vision d'abord pacifiste, et ensuite, on dit ce que les Américains veulent bien qu'on dise. Et je rappelle que les Américains avaient dit « il n'y aura pas un soldat américain sur le sol ukrainien ». Sur cette petite phrase, quand même, sur les troupes, quand le président annonce « aucune option ne doit être fermée » et qu'un journaliste lui pose la question en disant « y compris des troupes », il ne peut évidemment pas dire non, parce qu'il a dit qu'aucune option ne serait fermée. Et cette phrase, qui était une réponse à une question, est exploitée en particulier par son opposition, qui fait de l'opposition, c'est normal, c'est leur rôle, en disant il va envoyer des soldats, et ça se transformait, pendant 15 jours j'ai vécu avec ça, à on envoie nos soldats dans le Donbass, dont il n'a jamais été question. Jamais.
Mais il n'a pas voulu éveiller les consciences quand même avec cette petite phrase qu'il avait réfléchi, à laquelle il avait probablement réfléchi.
Non, mais les consciences qui sont à éveiller, c'est qu'aucune option ne doit être fermée et qu'il ne faut pas que la Russie gagne. Et ça, c'est important, c'est une preuve de volonté. Poutine n'est jamais fort qu'à cause de nos faiblesses. Donc nous devons être forts pour que les questions, ce soit lui qui se les pose et pas nous. Et ça, c'est essentiel.
Georgina Wright, on a vu dans le reportage le ministre allemand de la Défense lancer des petites piques contre Emmanuel Macron. Il faut dire que Emmanuel Macron aussi en lance contre les Allemands, puisque Emmanuel Macron a dit qu'il ne faudra pas être lâche en pensant aux Allemands. Du coup, le ministre allemand de la Défense lui a répondu « Nous n'avons pas besoin de discussion sur le fait d'avoir plus ou moins de courage. Ça n'aide vraiment pas à résoudre les problèmes. C'est rare de voir ainsi le couple franco-allemand se disputer sur la place publique de la sorte.
Alors, ils se disputent souvent, mais effectivement pas dans la place publique. Et moi, je dois dire, je trouve que c'est un peu gênant. Là, l'Ukraine, elle a besoin d'un front occidental qui soit uni et qui puisse continuer à l'aider jusqu'au bout. Et voir un petit peu ces disputes ou ces critiques voilées, c'est vraiment pas le moment, je pense. Et par ailleurs, à Washington, je vous dis pas comment le Congrès américain voit ça. Ils se disent déjà, les Européens ne savent pas agir sans nous. Et en plus, quand on est un petit peu en retrait, ils se disputent et ils parviennent encore moins à à se mettre d'accord. Donc je pense que, enfin, j'espère que ça va cesser. Je pense qu'aujourd'hui, la réunion du triangle de Weimar, donc entre la Pologne, la France et l'Allemagne, c'est un bon signal. Au-delà de ça, moi, je pense que une des frustrations allemandes envers la France, il y en a plusieurs, mais une des grandes, c'est de dire que le président, il parle, mais il n'agit pas. Et donc, en fait, quand moi je parle à des experts allemands, par exemple de la défense, qui veulent voir l'Allemagne faire plus, ils disent, mais oui, mais vous, de votre côté, vous êtes quand même très lent aussi, vous promettez d'envoyer des armes, mais ça met longtemps, on ne sait pas très bien ce que vous leur donnez aux Ukrainiens, votre soutien dans son ensemble, c'est à 3 milliards, nous on donne 7 milliards, donc il y a aussi des critiques vraiment sur le fait que le président parle beaucoup et agit moins. Donc je pense que là, on nous attend, et si on agit plus vite et plus rapidement, c'est ce que le président promet de faire, peut-être que ça pourrait aussi aider un petit peu cette discorde franco-allemande.
Armelle Charrier, c'est vrai que vu d'Allemagne, on reproche à la France d'être volubile, inconstante, changeante. On a vu qu'Emmanuel Macron était colombe au début, il est devenu faucon. Et puis surtout presque imprévisible. Le Monde, je vais lire un passage de l'article du Monde, il rapporte la scène suivante. Emmanuel Macron trinque un verre de whisky à la main. On est à l'Élysée le 21 février. La nuit s'étire. Et Emmanuel Macron lâche d'un air dégagé la phrase suivante. « De toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa. » Odessa, donc voilà, il dit comme ça une petite... Ça dit quoi d'ailleurs de la façon qu'a Emmanuel Macron d'exercer le pouvoir, ça ?
Qu'il y a aujourd'hui... Je ne pense pas que ce soit une désinvolture, parce qu'un président dans une position de guerre n'est pas...
Je précise que l'Élysée dément ses propos. Hein.
Après, on peut, évidemment, ça a été des propos qui ont été entendus, rapportés, etc. Mais à défaut d'une désinvolture, c'est que vous avez à un moment donné quelqu'un qui est dans une position de guerre et qui, dans la position de guerre, est pas jusqu'au bout d'une sorte de raisonnement. Mais c'est là où on est dans l'ère de la communication. Et c'est pour ça, en fait, que les Allemands disent... Parole, 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 où sont les actes? Parce que quand bien même vous seriez un président, quand bien même vous auriez la décision d'envoyer des troupes au sol, quand bien même vous auriez la décision d'envoyer du personnel militaire dans une ville d'Ukraine, est-ce que vous allez vous en parler à n'importe quel moment? Évidemment que non. Enfin, je veux dire, on a mille et un moyens de discrétion pour intervenir s'il le faut. Donc, de toute manière, un président n'a pas à communiquer sur ce type de choses-là. C'est comme on n'a pas à communiquer non plus sur la notion de la doctrine nucléaire.
Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron décide seul, le soir, avec un verre de whisky à la main, sur la façon de faire la guerre, alors qu'en Allemagne, on a un président, d'ailleurs, qui n'est pas le chef des armées, et qui convoque le Bundestag pour savoir ce qu'il faut faire?
En Allemagne, la coalition est plus fragile en plus. Donc du coup, c'est vrai que c'est aussi compliqué d'avoir une mise en place aujourd'hui d'une position. Mais c'est vrai que la position française aujourd'hui, c'est une position qui est très guerrière, qui est très jusqu'au-boutiste. Et derrière, la problématique, c'est avoir quelque chose de... Qu'est-ce qu'on peut mettre en place ? On a dans toute l'Europe aujourd'hui une économie qui reste vacillante. On a du coup une industrie de la défense qu'on n'est pas capable de réactiver. On n'est pas capable de fournir à l'Ukraine plus d'obus qu'elle ne le demande. On devait lui en fournir 1 million, on lui en a fourni 300 000. Donc on est effectivement à court à un certain nombre d'éléments. Vous avez des pays comme le Danemark qui a donné son artillerie, on a donné de l'armement, tous les pays ont donné un certain nombre d'armements. Mais il y a un moment donné, l'Ukraine est un pays en guerre. Un pays en guerre, ça a des soldats qui meurent, ça a des soldats qu'on doit renouveler et ça a de l'armement qu'on doit renouveler et auquel on doit donner des munitions. Si vous n'avez pas des alliés derrière qui sont capables de le faire, si les Américains demain ne le sont pas, comment est-ce que ça va pouvoir se faire derrière le déclaratif? Qu'est-ce qu'on met en place?
Sur la forme, juste général Dominique Trinquant, vous comprenez que cette petite phrase avec cet adjectif, lâche d'un air détaché le chef de l'État, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa, ça peut interroger sur la méthode, non?
Oui, mais moi, je suis interrogé sur l'article qui paraît juste avant que le président ne parle le soir. Mais ceci étant, pour répondre à votre question, on ne revient jamais assez sur la spécificité française. Le président est le chef des armées. Il ne parle pas comme ça. Il parle au chef d'état-major tous les jours. Il a un chef d'état-major particulier à l'Élysée. Le chancelier allemand n'est pas du tout dans cette situation. Je rappelle que la Bundeswehr, c'est l'armée du Bundestag. Donc c'est au Parlement qu'elle obéit. Et donc, c'est des situations totalement différentes.
Quel
donc,
est le rôle du chef d'état-major à l'Élysée? Est-ce que ce n'est pas le président qui, de toute façon, par définition, a raison en France?
Non, pas avec les armées, je peux vous le dire, pour l'avoir vécu de l'intérieur. Les options lui sont présentées et il a son chef d'état-major qui fait son travail d'état-major, le chef d'état-major particulier qui, lui, est à l'Élysée et qui a une petite équipe, hein, qui est en liaison constante avec l'état-major des armées et qui voit les options et qui, en fonction de... qui les prépare pour le président. Et in fine, le président va arrêter les solutions. Mais pour avoir vécu ça de très près, il n'y a pas de président qui prenne une décision contre les options qui lui sont proposées par les armées.
Pascal Boniface, mercredi, Vladimir Poutine a répondu à la télévision en Russie. Il a parlé de l'arme nucléaire qu'il serait prêt à utiliser, a-t-il dit, si la Russie était menacée. Comme en écho, hier, Emmanuel Macron a parlé de l'arme nucléaire en disant « Notre capacité nucléaire donne une sécurité aux Français ». Est-ce que ça aussi, ça peut expliquer la différence d'attitude des Français par rapport aux Allemands qui, eux, ne l'ont pas et qui donc, je reprends les paroles du chef de l'État, n'ont pas cette sécurité?
Alors, c'est sûr qu'il y a une différence fondamentale, c'est que nous avons l'arme nucléaire et que nous pouvons parler sur un pied d'égalité avec la Russie et que nous pouvions le faire avec l'Union soviétique qui était beaucoup plus puissante. Il y avait à l'époque une dissuasion du faible au fort. On avait beaucoup moins d'armes nucléaires que l'Union soviétique, mais comme une seule d'entre elles pouvait détruire Moscou, bien, il y avait cette dissuasion. Et avec la Russie, c'est encore plus simple. Poutine a dit mercredi, mais nous, on a les meilleures armes nucléaires, etc. C'est pas comme ça que ça se passe avec le nucléaire. Le nucléaire libère de la loi du nombre. Donc, on n'est pas obligé d'avoir le même nombre d'armes pour dissuader l'autre.
Une bombe, ça joue.
Un jeu suit. Mais par contre, donc, on est dans une situation de sécurité depuis le début. Par rapport aux Allemands, on n'est pas dans la même situation. Par contre, le résultat, c'est que et les Français et les Allemands sont opposés dans les opinions publiques à l'envoi de troupes. Et c'est là où je me séparais un peu de Dominique Trinquant. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était pas une option d'envoyer des troupes. Bien sûr, on ne peut jamais tout... il faut toujours ouvrir toutes les options, mais jusqu'ici, l'option qui était annoncée par Biden et reprise par les alliés, pas de soldats, pas de troupes au sol. Et Biden avait formulé ça en disant « S'il y a le moindre centimètre carré d'un pays de l'OTAN qui est attaqué, nous agissons avec des militaires, mais pour aider l'Ukraine, nous envoyons du matériel, pas de soldats. » Et là, quand même, il a ouvert une fenêtre, le président Macron, en disant « Je n'exclus pas ». Auparavant, c'était exclu. Quand on dit « je ne suis pas », bah, ça change. Et surtout, ce qui est le plus, disons, problématique, c'est que jusqu'à la victoire, mais la victoire, elle n'est pas définie. Est-ce que la victoire, c'est récupérer... Pour Zelensky, la victoire, c'est récupérer tous les territoires perdus.
Y compris la Crimée.
Y compris la Crimée, et juger Poutine et faire payer la Russie. C'est assez ambitieux.
Armelle Charrier, quand Vladimir Poutine dit « je n'utiliserai l'arme nucléaire que si la Russie est menacé dans ses intérêts vitaux. Est-ce qu'il s'associe pas à la Russie? Est-ce qu'il pense pas à lui? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on peut gagner face à une puissance nucléaire si Vladimir Poutine venait à perdre, comme on se l'est juré cet après-midi à Berlin, est-ce qu'il dirait pas, bah, maintenant je tente le tout pour le tout, parce qu'après tout, si je perds, c'est moi qui tombe et c'est la fin de mon régime et la fin de mon pouvoir.
Oui, alors ce serait utiliser l'arme nucléaire comme un dernier feu d'artifice avant de sortir de la scène. Il a répété...
Hitler, en 1944, oui. Est-ce qu'il l'aurait appuyé sur le bouton s'il l'avait eu?
On ne sait pas.
On ne sait pas.
Sur la question,
oui.
Mais après, je ne ferai pas comparaison avec là ce qui est en train de se passer. Je pense qu'au niveau de la Russie, Poutine a réitéré la doctrine nucléaire russe. Et ce qui est le plus important, c'est que c'est lui qui l'a réitéré. C'est pas Medvedev. C'est lui qui s'en est emparé et qui, du coup, en a parlé.
Donc vous nous l'avez rappelé, cette doctrine nucléaire russe?
C'est-à-dire, tout simplement, qu'à partir du moment donné où les intérêts les Russes se sont touchés, dans ces cas-là, il y a la possibilité d'utiliser l'arme nucléaire, qui est la doctrine que nous avons aussi. Enfin, voilà, qui est on ne met pas la contribution nucléaire à un autre pays, on le met sur ses biens propres. Donc aujourd'hui, c'était effectivement une réponse qui était une confrontation directe en disant s'il y a un souci, nous sommes en capacité. Et derrière, on a échos de mouvements de pièces nucléaires qui se déplacent du côté de la Biélorussie, donc qui se mettent au plus proche des frontières, avec aussi du côté de l'Europe derrière. Mais ça veut dire en fait qu'on est aussi en ce moment sur un moment qui est extrêmement important, parce qu'il y a une tension verbale, mais que derrière
avec le mot nucléaire qui est répété, il faut s'en inquiéter ou pas ?
Oui, parce que c'est dangereux. Parce que derrière, vous avez aussi une guerre qui est sur le terrain. Et donc, cette guerre sur le terrain, elle se stoppe. Elle se stoppe, on ne sait pas avec quels accords, soit en disant on laisse le Donbass aux Russes, soit on le donne aux Ukrainiens. Et encore faudrait-il que les Ukrainiens soient d'accord, parce que Zelensky n'est pas forcément d'accord avec Klitschko. Et on pourrait aussi parler de la politique intérieure ukrainienne, parce que tout le monde ne parle pas de la même chose. Mais soit on l'arrête là, soit vous avez par exemple les Russes qui vont dire on va partir maintenant conquérir Odessa, parce qu'on va de nouveau vouloir avoir un peu donner la mer Noire, et puis dans ce cas-là on sera obligé de rentrer en confrontation directement avec eux, et puis dans ces cas-là peut-être que si un jour il y a des négociations, ils diront on lâche Odessa puis on gardera la Crimée. Vous voyez, ça c'est ce que j'appelle une guerre, c'est on se met sur le terrain, on voit ce qui est conquis et on discute. Après vous avez le stade au-dessus, c'est que si vous rentrez sur un enjeu nucléaire, vous rentrez effectivement sur un enjeu d'un tout autre calibre.
Question de Philippe dans les Yvelines, Georgina Wright. La position du Royaume-Uni rejoint-elle celle de la France ? On a vu qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde avec France-Allemagne. Est-ce que France-Royaume-Uni, on n'est plus raccord ?
Alors, je pense que les Britanniques étaient également un peu étonnés quand le président a dit qu'on n'excluait aucune option. Je voudrais quand même revenir sur le fait, pendant cette conférence de presse, le président n'a pas dit « ça y est, aujourd'hui, on va envoyer des troupes ». Il a répondu à une question posée par un journaliste, parce que ça avait été évoqué pendant cette réunion qui s'est tenue à huis clos. Et donc, je pense que cette nuance, elle est importante, parce que ce n'est pas comme s'il avait engagé toutes les troupes européennes. Mais effectivement, ce qu'on en a retiré, c'était « ça y est, c'est le président Macron qui annonce de nouveau une action de la part de tous les Occidentaux ». Et je pense qu'au début, il y avait effectivement, les Britanniques étaient un peu étonnés, et après, ils ont compris que c'était cette ambiguïté stratégique, que c'était qu'il ne fallait pas exclure d'options, parce qu'en fait, dès qu'on met des lignes rouges, ça signifie une faiblesse aux yeux
des... Ils participent aux discussions, les Britanniques ?
Oui, ils ont participé.
Oui, mais...
Moi, j'ai une question très pratique. Si l'été prochain, les Russes sont à Kiev, on fait quoi ? On fait le plan Macron ? On envoie des troupes au sol ?
Eh bien, écoutez, il faudra voir les options qui seront ouvertes à ce moment-là. Mais encore une fois, aujourd'hui, pour l'histoire de l'arme nucléaire, c'est intéressant. Deux jours avant les élections, des groupes d'opposition russes rentrent sur le territoire russe. Les Russes pourraient se dire, ça y est, on est attaqué. D'autant qu'eux ne disent pas que c'est des groupes d'opposition, ils disent que c'est l'armée ukrainienne qui rentre. Il ne se passe rien. Donc, si vous voulez, je voudrais juste revenir sur la similitude entre la position britannique et française. Pourquoi ? Parce que ce sont deux pays qui ont la même culture stratégique, qui tous les deux ont l'arme nucléaire. Alors, peut-être plus autonome, pardonnez-moi, pour la France que pour l'Angleterre, mais qui ont la même culture stratégique. Et donc, ils peuvent penser à ça. Ils pensent, moi j'ai beaucoup travaillé avec l'armée anglaise, j'ai été même formé dans leurs écoles, et bien c'est la même chose. On ne ferme aucune option. Et donc, on doit étudier tout ça. Mais la question que vous posez aujourd'hui, il faut bien se garder d'y répondre. Il faut laisser le flou. C'est l'ambiguïté stratégique. Qu'est-ce que je ferais s'ils vont à Kiev ? Peut-être que j'interviendrai avant. Aujourd'hui, moi, personnellement, je pense que l'armée russe n'a pas la capacité, on parle d'Odessa, n'a pas la capacité d'aller à Odessa. Elle s'est arrêtée à Nikolaïv il y a un an et demi. Elle n'a jamais été capable de franchir la rivière qui est à Nikolaïv. Donc, et elle est même revenue en arrière du Dniepr. Donc, elle n'a pas la capacité de le faire. Mais en revanche, Odessa est cruciale pour l'Ukraine, parce que c'est le poumon de l'Ukraine. C'est ce qui permet d'exporter par le détroit des Dardanelles. Et donc, il est évident qu'on doit réfléchir à cette option.
– Et donc, cette petite phrase, de toute façon, dans l'année qui vient, je vais devoir envoyer des mecs à Odessa,
mais
si Emmanuel Macron a vraiment dit ça.
– Mais ça veut dire qu'il y a des options, forcément. Ça ne veut pas dire qu'on va le faire. Je vous donne un exemple, je viens de lire, là, sur
Moldavie.
La Moldavie. Vous savez qu'on a mis en place un système d'identification antiaérien, c'est-à-dire un radar Thales qui est en Moldavie. Et là, l'Union européenne est en train de réfléchir. Le 18, la décision va être prise d'équiper en armement antiaérien la Moldavie. Si vous aviez une carte, vous regarderiez Moldavie, Odessa.
On la voit.
Vous sauriez qu'on est vraiment pas loin.
On est, bah oui, voilà,
on est vraiment pas loin du tout.
On voit la carte.
Donc, vous voyez, donc on est très très proche. Donc toutes ces options, elles sont étudiées et en dynamique, comme dirait le président, eh bien, il faut les mettre en œuvre ou pas.
Alors, ces dernières semaines, les forces de Vladimir Poutine sont parvenues à grignoter un peu de terrain sur le front est de l'Ukraine. Les forces de Kiev manquent d'hommes et de munitions, mais lancent des contre-attaques jusque sur le sol russe. Cette semaine, plusieurs attaques de drones, mais aussi des incursions de combattants russes pro-Kiev ont touché les régions russes de Koursk et de Belgorod. Sujet de Thibaut Gross et Christophe Roquet.
La guerre sur le sol russe. C'était il y a deux jours. Un drone survole cette ville à la frontière avec l'Ukraine, s'écrase sur cette raffinerie et déclenche un incendie. À Belgorod, la mairie est touchée par une frappe ainsi que des habitations. Prenant de court la défense russe.
Mes amis, c'était une nuit agitée pour nous tous aujourd'hui. Des attaques massives de drones ont eu lieu, selon certaines informations. Le danger n'a pas encore été totalement éliminé, mais nos forces de défense aérienne ont fait un excellent travail.
Des frappes depuis le ciel et même une attaque au sol. Sur ces images de l'armée russe, des chars sont abattus par des drones, les uns après les autres.
Grâce à l'abnégation des militaires russes, toutes les attaques des formations terroristes ukrainiennes ont été repoussées. L'ennemi a été frappé par l'aviation opérationnelle et tactique, par les missiles, l'artillerie et les systèmes de lance-flammes.
Des engins militaires infiltrés en Russie, les auteurs, les voici. Des volontaires russes ralliés à la cause ukrainienne. Le corps des volontaires russes proche de l'extrême droite suprémaciste, la Légion Liberté de la Russie plus modérée, ou encore le bataillon sibérien, division de diverses minorités du Caucase, ou encore d'Extrême-Orient. Des groupes armés, tous opposés à Vladimir Poutine.
Nous voulons donner à vos enfants un avenir normal et civilisé, sans sanctions, sans répression, sans élections truquées, et surtout sans guerre, sans Poutine qui usurpe le pouvoir depuis plus de 20 ans.
Et самое главное, без войны.
Attaque de drones et de chars sur le territoire de la Russie, comme pour contourner une ligne de front figée, semaine après semaine. Des frappes aussi en mer Noire, où les navires russes sont pris pour cible. Comme le 5 mars dernier, ce navire de guerre est coulé par un drone ukrainien. La Russie aurait déjà perdu 20% de sa flotte. Succès sur terre, sur mer, mais aussi dans les airs. Depuis le début de l'année, la défense ukrainienne a abattu plus d'une dizaine de chasseurs russes Su-34, comme celui-ci. Des victoires revendiquées par Volodymyr Zelensky.
La situation est bien meilleure qu'au cours des trois derniers mois. Nous avons connu des difficultés en raison du manque de munitions, de la défense antiaérienne, des armes à longue portée et de la densité des attaques de drones russes. Mais nous avons fait du bon travail contre l'aviation. Nous avons rétabli la situation dans l'Est. L'avancée russe est arrêtée.
Le président ukrainien combatif, malgré la menace d'une nouvelle offensive russe d'ici l'été. Et sur la ligne de front, justement, la réalité est un peu plus contrastée. Les Russes grignotent du terrain et ont repris quelques localités et même une ville, Avdiivka, tombée fin février. Vladimir Poutine ne se prive pas de le rappeler.
Les forces ukrainiennes combattent sur fond d'échec sur la ligne de front. C'est simple, ils n'ont atteint aucun des objectifs qu'ils s'étaient fixés l'année dernière.
Démoraliser les Ukrainiens par les mots, mais aussi par les armes, en prenant pour cible les populations civiles. Cet après-midi encore, une frappe de missile russe a fait 14 morts et 56 blessés à Odessa.
Tout de suite. Général Dominique Trinquant, en question de Philippe. Puisque les missiles Scalp permettent déjà des frappes sur le territoire russe, pourquoi Olaf Scholz refuse-t-il de fournir des missiles Taurus ? Alors, les missiles Scalp, faites-nous une petite leçon de choses, ce sont les missiles français
français, Storm Shadow britannique, sont les mêmes.
250 km de profondeur.
250 km, c'est à peu près la même chose hein, que les Taurus, sauf que les Taurus vont plus loin.
Ils font 500, le double.
500 km, voilà.
Donc les Made in Germany sont deux fois plus efficaces. Hein.
Oui, alors Made in Germany, c'est aussi MBDA et Saab. Hein. Ah,
c'est le même fournisseur.
Oui, c'est le même fournisseur, exactement.
Donc, pourquoi on n'en a pas, nous, question subsidiaire? Pourquoi on n'a que 250 km de portée, là où les Allemands ont 500?
Écoutez, parce qu'on a considéré que la frappe dans la profondeur, pour nous, 250 km, ça allait bien, quoi. Parce que, en fait, à l'origine, c'est pour frapper dans la profondeur, et donc il faut identifier les cibles dans la profondeur pour les donner. Hein.
Donc Philippe qui dit, pourquoi dès lors que la France a donné des scalps, les Allemands ne donnent pas des Taurus?
Alors, premier point, un point de confiance peut-être que les Allemands... Voilà. Et puis le problème de la coalition en Allemagne. Il y a eu un vote au Bundestag hier qui a dit non, pas de Taurus. Donc il y a toute cette position dont je parlais tout à l'heure de pacifisme un petit peu. Et puis... Il faut quand même se souvenir d'où vient le chancelier Scholz. Hein. C'est un chancelier qui vient plutôt de la gauche à gauche allemande, qui conversait vaillamment avec la RDA autrefois. Pour lui, c'est une révolution copernicienne, tout ça. Et pendant la réunion de l'Élysée, d'ailleurs, tous les gens qui regardaient disaient qu'il était un peu hystérique. Tout ça, ça lui paraissait complètement... Donc, il y a un gros travail à faire. Personnel pour le chancelier Scholz, mais bon, c'est un grand, il va savoir le faire, mais aussi à l'intérieur de la population allemande. Parce que les arguments qu'il
donne... Alors, ils sont 61% contre, hein, ouais. Les Allemands, la livraison de Taurus à l'Ukraine.
Parce que je voudrais rappeler que les arguments techniques avancés par le chancelier Scholz ont été contredites par ses officiers généraux
C'est-à-dire
de l'armée.
C'est-à-dire qu'il fallait des soldats allemands en Ukraine pour les manipuler.
Ouais. Ce qui est faux.
Ce qui est faux. Pascal Boniface, sauf qu'on a entendu cet échange vidéo. Où des militaires allemands disaient, bah tiens, avec. Ils conversaient de la façon dont ces missiles Taurus pourraient détruire le fameux pont de Crimée, oui. Dont Vladimir Poutine est si fier qu'il a inauguré en 2018.
Alors c'est ça aussi qui fragilise l'Allemagne, puisque des conversations entre officiers ont été écoutées par les Russes et publiées par les Russes. Donc, et disons qu'ils n'ont pas été très prudents dans leurs conversations. Et donc, ça fragilise un petit peu la coalition. Alors, Scholz, il n'est quand même pas aussi timide que ça. Ils ont quand même mis 100 milliards. Ils ont fortement augmenté le budget militaire. Ils ne sont plus quand même dans l'Allemagne, etc. Mais c'est une coalition. Tu l'as dit, effectivement, c'est le Bundestag qui décide. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. Il y a un système présidentiel. Et que, effectivement, il y a aussi. Et que les Allemands ne font pas tout à fait confiance aux Ukrainiens. Ils ont peur d'être entraînés, que s'ils donnent des missiles, ces missiles soient utilisés justement pour aller frapper et en désobéissant un peu aux consignes.
Frapper que... Moscou, pourquoi pas
Moscou, je ne pense pas qu'ils puissent.
Mais à l'intérieur de la Russie.
Oui, plus loin, enfin, et ce pont, etc. Donc, il y a. Dans l'Allemagne, il y a la peur d'un engrenage, parce qu'ils sont plus près, ils ont effectivement une autre tradition. Donc la notion d'engrenage compte beaucoup plus. Ils ont à la fois dopé leur système militaire, mais enfin ils viennent de loin, parce qu'ils ont mis 100 milliards sur la table, mais plutôt pour acheter les armes aux États-Unis. Et effectivement, ils sont plus proches de la doctrine américaine, c'est quand même l'OTAN, et comme Biden a dit, pas d'hommes, ils ont peur en fait d'être lâchés par les Américains et de se retrouver seuls. Les Français ont moins peur d'être lâchés par les Américains, parce qu'on n'a jamais trop compté sur eux depuis la 5e République. Et ça, ça crée, disons que les hésitations américaines tétanisent un peu les Allemands et font dire à Macron, il faut foncer parce qu'il y a une hésitation américaine.
Georgina Wright, il était en début de semaine, Volodymyr Zelensky dit, tant que l'Ukraine tient, l'armée française peut rester sur le territoire français. Disons, nous n'avons pas besoin de troupes au sol, monsieur Macron, nous avons besoin d'armes. Est-ce qu'il n'est pas là le nœud du problème ?
Mais je pense que c'est son message depuis le début. C'est-à-dire qu'il dit qu'on manque cruellement d'armement. Et je parlais à un politicien d'Europe de l'Est hier soir qui me disait qu'il avait été sur le front. Et il disait que le moral des troupes ukrainiennes, ben, c'est difficile là, parce qu'il leur manque ce qu'il faut pour vraiment pouvoir faire la guerre correctement. Et donc on sait que Zelensky demande... plus. Les Allemands, ils ont dit non aux chars et puis ils ont accepté. Ils pourraient dire oui maintenant. Je pense qu'effectivement, l'Allemagne n'a pas envie d'agir seule parce qu'il y a une crainte au sein de la population allemande que ce serait perçu comme une escalade et qu'en fait, c'est les Allemands qui font la guerre à la Russie et tout ce qui pourrait en découler. Maintenant, agir en coalition, pourquoi pas? Et effectivement, le problème qu'on a là, pour l'instant, c'est que les États-Unis sont en pleine campagne électorale. On pourrait voir un retour de Trump. Un Trump qui a déjà dit « Je n'hésiterai pas à retirer les États-Unis États-Unis de l'OTAN.
Plus un centime pour l'Ukraine, si je suis au pouvoir, c'est Orban qui nous a révélé ce que lui aurait dit Trump.
Oui, mais bon, est-ce qu'on peut toujours... Je ne sais pas. Moi, j'attends de voir ce qui est dit pendant la campagne, mais effectivement, la campagne aux États-Unis, c'est le moment où ça va vraiment prendre. Trump, il aura des avis sur la politique étrangère, il va en les mettre. Alors, il n'est pas seul, enfin, il a le dernier mot, mais il ne sera pas seul à décider. Mais néanmoins, je pense que les Allemands, pour l'instant, ont une peur bleue de l'escalade et une peur bleue d'être lâchés par les
États-Unis. Est-ce que ça pèse sur leur morale, les armées ukrainiennes, les troupes ukrainiennes, de voir que non seulement ils se battent depuis 2 ans, mais que ça y est, on arrête de leur fournir des munitions, genre c'est fini.
Je repense toujours qu'ils avaient une application qu'ils avaient montée au tout début de la guerre qui leur disait où pourrait potentiellement avoir une attaque nucléaire. Et quand on posait la question aux Ukrainiens en disant « mais vous n'avez pas peur d'une attaque nucléaire ?», ils disaient « non, on n'a pas peur. On a peur de perdre notre pays. » Et donc là, en fait, je pense une certaine frustration des Ukrainiens, ils sont très reconnaissants, évidemment, ils savent très bien que sans l'appui des alliés, ils ne pourraient tout simplement pas y arriver. Mais néanmoins, ils leur disent « ok, on comprend le débat autour du nucléaire, on comprend le débat autour des négociations de la paix, mais là, ce qu'on a besoin, c'est des armes, parce qu'au plus vite on a les munitions, au plus vite on peut gagner cette guerre. »
Armelle Charrier, Emmanuel Macron l'a redit hier, on est dans un rapport de 1 à 10 en nombre d'obus, c'est là où on voit la tour russe avec la profondeur. Ils savent se mettre en économie de guerre et à l'usure, ils l'emportent.
Oui, parce que c'est un pays qui est dur et résilient et qui en plus a une notion d'avoir un chef. Alors il peut être contesté, il peut être contestable, mais ils ont l'habitude en fait d'avoir une gestion qui se fait par une personne. Alors vous imaginez bien qu'une gestion par une personne face à une gestion européenne qui avec des multiples têtes, il y en a un qui est plus facilement gagnant dans l'affaire. Mais je pense que l'erreur certainement qui a été faite au départ sur cette guerre en Ukraine, c'est le fait d'avoir jamais voulu mettre sur la table la notion de « et si la Russie voulait aller jusqu'au bout, et si la Russie allait gagner ?» J'ai dû attendre presque un an avant de voir un titre d'un journal américain mettre « est-ce que Poutine peut gagner ?» Et en fait, c'est ça qui donne une lecture de ce qui est vu du côté russe. Du côté russe, il n'y a pas de question sur ce point-là. Donc, il faut...
Ils sont persuadés qu'ils vont gagner.
Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas lâcher ce qui est en train de se passer en Ukraine. Ça ne veut pas forcément dire avoir cette vision que nous avons, qui va être de dire on va jusqu'à Kiev, on va prendre plus encore de pays, etc. Mais ces régions qui sont conquises aujourd'hui, qui sont le Donbass et qui sont la Crimée, c'est leur ligne rouge. C'est la ligne rouge par rapport à l'OTAN, c'est la ligne rouge par rapport à l'Union européenne. Et donc, eux, ils sont dans une logique où ils ont perdu des soldats au départ, mais en même temps, ils en ont rapatrié, ils ont renvoyé des troupes et donc ils ont quand même des soldats qui sont assez aguerris parce qu'ils tiennent le front. Quoi qu'il arrive, ils tiennent quand même le front. Et derrière, oui, ils ont renvoyé, mais les journaux américains parlent de trois fois plus de munitions que ce qu'on est capable de délivrer de l'autre côté. Et c'est là où est la violence aux côtés de l'Ukraine. C'est que les Ukrainiens, ils sont obligés de se battre. La première chose qui doit impacter leur morale, c'est le nombre de morts et de blessés, parce que constamment il faut renvoyer du monde au front. Dans une guerre, vous avez forcément des morts et vous avez forcément des blessés, que vous avez des classes populaires dans lesquelles vous allez lever effectivement des jeunes pour aller apprendre à se battre, qui se battent avec les moyens du bord, qu'ils ont en plus des armes qui viennent de tout azimut, donc en plus il faut à chaque fois apprendre à manier telle arme, puis en plus telle autre, puis ensuite telle autre, et en plus savoir que vous dépendez des bonnes volontés des chancelleries européennes qui, si elles sont présentes, seront là, et si elles ne sont plus présentes, ne seront pas là. Et en plus, vous avez des discordances dont on se fait relativement peu l'écho, entre un Zelensky qui mène justement l'offensive en disant « puisque j'ai de l'armement occidental, il faut que je continue la guerre », et certains qui commencent à dire « il faut la modeler ». Donc vous avez une espèce de très grande cruauté. Et là-dessus, vous avez tout simplement le pragmatisme qui va se mettre en place avec des pays européens qui peuvent être très pro-Ukraine et qui demain soutiendront encore l'Ukraine. Vous avez des pays qui, à un moment donné, se diront « il faut se sortir cette épine du pied parce qu'on est dans une logique qui va être défaitiste ». Et puis une logique qui, elle, ne nous regarde pas, mais qui est une réalité, c'est une logique économique.
Alors, comment contrer la propagande du Kremlin sur la guerre en Ukraine ? L'association Reporters sans frontières a lancé récemment un bouquet de chaînes satellites facilement accessibles sur le territoire russe. Les programmes sont souvent fabriqués par des opposants à Vladimir Poutine exilés en Europe. Sujet de Juliette Vallon, Stéphane Lopez et Ilana Azinko.
C'est le genre de témoignage qu'on ne verra jamais sur un média d'État russe, celui d'une mère en souffrance.
J'ai été prévenue de la mort de mon fils le 6 juillet par l'administration. Il était censé rentrer ce mois-là. Il allait avoir 10 jours de permission.
Ils vous ont dit où il était mort ?
Pas immédiatement. Parce que j'hurlais. J'hurlais à tout le monde de se taire, de ne rien me dire.
La guerre en Ukraine dans toute son horreur, mais aussi les funérailles d'Alexeï Navalny le 2 mars dernier. Des images tournées par les équipes de Novaya Gazeta. Le média indépendant russe exilé en Lettonie travaille encore aujourd'hui malgré le danger et a gardé quelques journalistes à Moscou.
Lorsque nous communiquons avec nos reporters, dans nos conversations cryptées, nos différentes plateformes, ils n'utilisent pas leurs vrais noms. Ils utilisent des noms d'emprunt. Et bien sûr, les fichiers qu'ils nous fournissent sont envoyés d'une manière très compliquée, parce qu'ils ne peuvent évidemment pas nous les transmettre directement, au cas où ces fichiers tomberaient entre les mains de la police.
Depuis le 12 février dernier, ces reportages sont désormais accessibles à 4,5 millions de foyers russes grâce à un bouquet satellitaire.
Jusqu'à 25 chaînes, principalement en russe, diffusant une information indépendante à un public russophone.
Son nom, Svoboda, liberté en russe. Un objectif, contrer la propagande du Kremlin.
Vous avez des tranches d'informations, de débats, un peu plus loin, une émission littéraire sur Nabokov.
Un satellite pour éviter la censure sur Internet, de plus en plus forte en Russie.
D'abord, un satellite, c'est très très haut par définition, ça arrose assez large et c'est très difficile à intercepter ou simplement de détourner le signal ou d'y créer des interférences. Là en plus, Svoboda est sur un satellite qui s'appelle Hotbird 13, qui est doté des dernières capacités. Vraiment, c'est très à jour en matière d'évitement du brouillage. Impossible pour la Russie d'aller détecter qui regarde ces chaînes.
Rusé pour dénoncer plus librement la politique de Vladimir Poutine.
Je pense que Poutine se considère comme un politique populaire. Il pense que beaucoup de gens soutiennent réellement sa guerre et sont prêts à mourir pour ses idées géopolitiques. Bien sûr, tout cela n'est qu'illusion et très bientôt, les propagandistes de Moscou devront y faire face.
En Russie aujourd'hui, 6 à 9 % de la population seulement a accès à une information libre. La rédaction de Novaya Gazeta est persuadée qu'elle peut toucher un public plus large.
On imagine qu'on s'adresse à un citoyen russe ordinaire, de la classe moyenne, d'âge mûr, avec un salaire moyen. Je pense que nous ciblons ces personnes parce que nos programmes les aideront à ouvrir les yeux sur ce qu'il se passe autour d'eux. De plus, nous devons rappeler que le projet du satellite cible également les territoires occupés d'Ukraine, car on sait que les gens là-bas subissent aussi la propagande.
Le bouquet satellitaire Svoboda touche aussi des territoires comme la Biélorussie, la Moldavie ou encore la Transnistrie.
Georgina Wright, on sous-estime la propagande russe qui pourrait endoctriner, pour reprendre cette expression du temps de l'URSS, la jeunesse russe.
Je dirais plusieurs choses. La première, c'est qu'une majorité de Russes, donc plus ou moins 60%, n'ont jamais quitté le pays. C'est-à-dire que, donc, déjà, l'accès à l'information est compliqué, mais en plus, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas l'opportunité de quitter et de voir autre chose. Pour la jeunesse, c'est une jeunesse qui a grandi entièrement sous le paradigme de Poutine. Moi, j'étais à Moscou en mars 2020 pour un échange d'une semaine. On a pu rencontrer des jeunes qui me disaient, à l'époque, alors on est très loin de la guerre et de l'invasion de l'Ukraine, et ils me disaient déjà, mais vous parlez tout le temps de nous, vous cherchez à anéantir la Russie. Et j'aurais dit, écoutez, pour tout vous avouer, on parle parle pas tellement de vous, on est sur autre chose, parce qu'en 2020, c'était vraiment pas, c'était avant Covid, on parlait pas tellement de la Russie, c'était vraiment autour parmi des experts, mais c'était pas comme on en parle aujourd'hui. Donc je pense que c'est une jeunesse, alors il y en a beaucoup qui sont partis, au début de la guerre, surtout ceux qui étaient complètement opposés à Vladimir Poutine, mais c'est une jeunesse qui était assez aisée, qui pouvait se permettre de quitter.
Parce qu'à la télé russe, on abreuve les téléspectateurs d'idées que l'Occident veut la mort de la Russie, c'est ça ?
Le Kremlin contrôle tout ce qui est dit, et clairement, il y a un message qui est là depuis très longtemps, qui est la survie de la nation russe dépend de la défense russe, et notamment, c'est pour ça qu'on va à la guerre, parce qu'on veut défendre la nation russe. Et c'est un message qui percute, et les jeunes avec qui j'avais pu en discuter en 2020 me rappelaient et me parlaient de ce message. Donc effectivement, il ne faut pas croire que tout le monde est anti-Poutine. Il y a évidemment, on l'a vu à la mort de Navalny, il y a des gens qui sont allés déposer des fleurs, qui ont voulu protester. Aujourd'hui, des bureaux de vote qui ont été incendiés, mais je pense qu'il faut aussi être très réaliste qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement convaincus par ce programme.
C'est les méthodes de l'URSS qui perdurent, en fait, généralement.
J'allais vous dire, en termes de propagande, si vous voulez, la Russie a 100 ans d'avance sur nous. Hein. Depuis... ils ont commencé avec les bolcheviks, Staline, ensuite ça a continué. Donc, ils ont une grande avance. Nous, on est en train de se réveiller un peu. On est en train de se dire, à deux titres, hein. Là, c'est ce que j'appelle de l'action offensive, c'est-à-dire qu'on veut apporter de l'information dans ces pays-là. Et puis, il y a l'action défensive. Hein. Quand on voit ce qui passe sur les réseaux sociaux en ce moment, mais c'est effarant. Les nouvelles... Et alors, ce qu'il y a d'absolument terrible...
On est surpris, je sais pas, par le tweet très vulgaire du Premier ministre russe Medvedev, qui a dit, je suis désolé, mais il a dit, Macron va venir en Ukraine, il va se chier dans son froc, il faut qu'il amène plusieurs caleçons. C'est de la hauteur du numéro 2 de l'État russe que de tweeter ça.
Écoutez, je pense qu'il doit se racheter du libéralisme qu'il avait montré quand il était président de la Russie.
Et donc il pense qu'être vulgaire, ça compense son libéralisme de jeunesse ?
Il faut qu'il en fasse plus. Il en fasse plus et tout le monde rigole en disant oui, traité par le mépris, en fait, d'une certaine façon.
Mais les Russes ne se disent pas, mon Dieu, qui avons-nous à la tête de notre
État ? J'allais vous dire, on parle de la Russie, mais regardez ce qui se passe en France. Vous avez tout un auditoire en France, vous pouvez leur raconter n'importe quoi, ils vont le gober à partir du moment où vous dites que les Américains sont tous des salauds, que Macron est un minable et que l'Europe ne vaut rien du tout. Il n'y a que la Russie qui est grande. Ils vont gober tout ça. Donc, si vous voulez, il y a un problème d'éducation derrière, au-delà des moyens. C'est ce que je veux dire, au-delà des moyens, il y a un problème d'éducation. Il y a beaucoup d'éducation à faire. Mais pour certains, c'est trop tard. Et peut-être que ça ne vaut même pas la peine, d'ailleurs. Hein.
Pascal Boniface, on avait peut-être la naïveté de croire que la démocratie, avec la vérité, triompherait. En fait, on s'aperçoit que celui qui gagne, c'est celui qui fait des tweets le plus vulgaire possible. Et
il ne gagne pas forcément. Medvedev, c'est devenu un peu une sorte d'amuseur public. Le patron, c'est Poutine. Et lui, en fait, essaye d'exister. Et il fait de la surenchère, effectivement, pour faire pardonner la parenthèse libérale de 2012 et de montrer que ça rappelle un peu les époques staliniennes, effectivement, où il faut faire de la surenchère pour être le plus dur. La désinformation, ça a toujours existé, c'est pas nouveau. Ce satellite sympathique, ça rappelle Radio Free Europe ou Radio America, où à l'époque de la guerre froide, les États-Unis envoyaient des nouvelles, des ondes, parce que l'accès à l'information et à briser le monopole d'information, c'est vraiment indispensable. Moi, je serais moins sévère que le ministre sur les réseaux sociaux, parce que les réseaux sociaux permettent de briser les monopoles des gouvernements sur l'information. Alors, il y a effectivement des choses qui ne sont pas très bonnes, et il y a des choses qui sont plus... Et puis, finalement, il y a les contre-arguments, etc. En fait, dans tous les pays dictatoriaux, qu'est-ce qu'ils font dès qu'ils veulent faire un coup d'État ou empêcher une révolution ? C'est Internet, de couper les réseaux sociaux. Ouais. Et donc, les réseaux sociaux, quand même, ont une utilité, parce que c'est la propriété de chacun. Chacun devient émetteur d'informations et pas seulement récepteur. Alors, oui, bien sûr, il y a de la désinformation, il y a des égouts dans les réseaux sociaux, mais ça, c'est partout. Il y avait ça dans les colporteurs auparavant, quand on colportait des mauvaises nouvelles. Les réseaux sociaux, c'est quand même aussi la force des mobilisations populaires et des individus qui, sans moyens, peuvent s'informer et mobiliser les autres.
Armel Charrier, les Russes votent en ce moment. Est-ce que dimanche soir, Vladimir Poutine en sortira renforcé avec son cinquième mandat, ou est-ce que ça peut mal se passer et justement un incident n'est jamais à exclure? On a vu que le pouvoir russe a semblé un peu déstabilisé par les obsèques de Navalny et ces gens qui faisaient la queue pour aller le rendre hommage.
Oui, mais je pense que sur la réélection de Vladimir Poutine, un incident ne me semble pas être quelque chose qui est dans la politique russe du moment. Donc je pense que les réélections se fera...
Opération midi contre Poutine, là il faut voter dimanche à midi si on veut, pour manifester son opposition à Poutine.
Oui, il peut y avoir un certain nombre de gens qui vont le faire, hein. Ça, on ne maîtrise pas cette chose-là, mais je pense que sur effectivement une élection présidentielle où vous avez un nombre d'opposants qui sont quand même assez limités et où les choses sont assez bien tenues sur les trois jours venus, il n'y a pas la capacité demain d'avoir une surprise phénoménale sur l'élection de Vladimir Poutine. C'est quand même un pays, il faut rappeler la Russie, hein, ils sont quand même 145 millions, là ils sont 112 millions d'électeurs, sur lequel il y a, c'est pour ça que là, quand on parlait de réseaux sociaux, tout ça, finalement il y a la culture et la connaissance qui sont toujours au fond des réalités. C'est un pays où l'âme slave est quand même très marquée, où du coup il y a un pays de résilience parce que c'est un pays dur, c'est un pays de forêt, c'est un pays qui s'étend sur de très longues
fuseaux horaires,
etc. Donc nous qui travaillons sur l'international, chaque pays a son identité, donc chaque pays en fait défend son histoire et son identité, donc eux défendent la leur. Le jour où vous avez une ouverture avec justement l'Europe, la démocratie, ce genre de choses-là, forcément ça intéresse la jeunesse, parce que l'Europe les a toujours fait rêver. Ils sont à moitié asiatiques, ils sont à moitié européens. Mais quand il y a des temps durs, je pense qu'il y a aussi derrière une résignation ou une résilience.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Alors, Xavier, dans le Pas-de-Calais, que risquent les Russes qui n'affichent pas leur soutien inconditionnel à Vladimir Poutine ?
S'il critique, il risque la prison. C'est-à-dire que s'il like un tweet ou quelque chose sur les sociaux qui critique la guerre, il risque la prison. S'il lise un poème qui est contre la guerre, il risque la prison. Alors, celui qui ne va pas faire l'éloge constant de Poutine ne risque pas grand-chose, mais s'opposer à lui, sur n'importe quel prétexte, peut vous risquer la prison, qui n'est pas vraiment un endroit très agréable en Russie.
Armel Charrier, Marcel en Loire-Atlantique. Les autres pays européens se sentent-ils aussi menacés que la France? Si tel est le cas, comment expliquer notre isolement? Hier, le président Macron a cité la Pologne en disant « Mais vous savez, si Poutine gagne, vous allez voir, en Pologne, ils seront les prochains sur la liste et dans les pays baltes également. » Est-ce qu'il y a cette conscience-là en Pologne?
Oui, il y a absolument cette conscience. Tous les pays qui sont proches de la Russie sont particulièrement sensibles sur le danger qu'il peut y avoir. Mais ce qui est marquant, c'est que plus vous êtes proche de la Russie, lorsque vous vous promenez dans des pays avec des frontières communes avec la Russie, plus vous avez un principe de réalité. C'est-à-dire qu'ils se méfient énormément de la Russie. Ils sont très heureux d'être dans l'OTAN où ils en rêvent et ils rêvent de l'Union européenne. Mais ils savent quel est l'ogre russe qu'ils ont à côté et ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous parce que la géographie fait qu'ils sont toujours rattrapés par le fait qu'ils doivent vivre ensemble. Donc vous pouvez avoir des positionnements qui sont, par exemple, des pays baltes ou de la Pologne, qui vont être justement de se protéger de ce qui est en train de se passer en Ukraine, de tout faire pour éviter que ça arrive. Mais si demain il devait y avoir une position à négocier, ils seront aussi sur une position à négocier. Alors que curieusement, nous qui sommes plus à l'ouest, si on regarde la géographie, comme on est coupé d'une réalité de terrain, on peut parfois avoir une pensée qui va être du coup presque plus sectaire que sur avec un pragmatisme d'évidence.
Il faut rappeler que ces pays non seulement sont proches aujourd'hui de la Russie, mais ils ont été occupés par l'Union soviétique. Donc ils ont la mémoire de ce qui s'est passé. Ils ont été occupés. Quand vous allez discuter dans ces pays-là, ils vous racontent les déportations des pays baltes en particulier, ils vous le racontent. Et ça, c'est vivace, c'est la grand-mère, c'est la mère qui a été déportée. Donc c'est très très vivace chez eux.
Mais par exemple, là, quand j'étais en Lituanie, ils rappellent toujours qu'ils font du commerce avec la Russie, oui, même quand ils s'entendent ou qu'ils ne s'entendent pas. Donc ça leur donne un biais d'entrée, alors que nous ne l'avons pas forcément.
Ils sont très... mais en même temps craintifs, ce qui les rend moins, peut-être moins va-t-en-guerre ou précautionneux à ne pas éveiller la...
Ils sont très conscients qu'aujourd'hui, l'Ukraine fait le travail pour tout le monde et que la jeunesse, c'est même plus que ça, c'est qu'ils ont tout à fait conscience que la jeunesse ukrainienne qui est en train de mourir meurt pour eux. Et que demain, S'il devait y avoir une autre étape, ce serait peut-être eux.
Est-ce à dire que la Pologne est très active dans le soutien militaire qu'elle a à l'Ukraine, qu'elle joue un rôle capital en termes de matériel, de formation, de base arrière ?
Bien sûr, capital, elle est au cœur de l'OTAN. Hein. Et dans l'OTAN, il y a des bases américaines, il y a un corps d'armée américain qui est venu s'installer en Pologne. Donc très très important dans la formation. Les formations fournies par l'Union européenne se font en Pologne pour les trois quarts. Donc elle est très très active dans le soutien militaire, mais en plus ils ont une frontière commune dont on a vu les problèmes avec les céréales par exemple. Hein. Donc il y a effectivement un rôle crucial de la Pologne, et c'est pour ça que la réunion du triangle de Weimar est très importante. Parce que sur une carte, vous voyez, l'Allemagne, elle est en sandwich.
Weimar, c'est Paris, Moscou, Berlin et Varsovie.
L'Allemagne, elle est en sandwich entre la Pologne et la France. La Pologne qui est sur le front, la France qui est plutôt derrière, et l'Allemagne entre les deux qui s'occupait un peu de la Mitteleuropa autrefois.
Alors, il nous reste très peu de temps. Avec 3 000 milliards de dettes, comment pourrions-nous nous battre ? Georgina Wright, il y avait l'idée de créer un fonds, comme on a fait un fonds Covid, de s'endetter pour se défendre ?
C'est effectivement la question. Comment est-ce qu'on continue à soutenir l'Ukraine dans la durée ? Là, l'Union européenne s'est prononcée à plusieurs... Enfin, un emprunt, c'est une opportunité. Mais il faudra voir. Ce sera des discussions difficiles pour cette année.
Merci beaucoup. Bonne soirée sur France 5.
Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.